Bon jeudi matin tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Peut-être étiez-vous justement à l'écoute de notre émission précédente avec Paul Arcand, bien sûr. Et il y a eu ce point de presse inopiné, inusité à 8h30 du matin, comme ça. Le premier ministre et le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec bien sûr le docteur Arruda, directeur de la Santé publique, qui ont trouvé importance ce matin, là, alors que vous vous prépariez à aller au travail, alors que vous prépariez sans doute les enfants pour l'école, ils ont jugé important de prendre le temps de nous expliquer qu'est-ce qui allait se passer désormais en ce qui concerne les récalcitrants. On s'en est beaucoup parlé, vous et moi, encore hier, on se disait, bon, est-ce que les amendes, ça vaut la peine d'en mettre, vu que les gens les contestent ou font ou ont à peu près pas peur de la police? Bien, il semble qu'au bureau du premier ministre, on ait trouvé important, oui, d'augmenter l'intervention policière avec des amendes plus salées. Combien sera le coût de l'amende? On l'ignore pour l'instant. Tout ça doit être approuvé par le Conseil des ministres. Il y en aura un, conseil spécial. Il y aura Geneviève Guilbeault également, qui probablement dès demain pourra nous renseigner plus là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que dès samedi, si vous refusez de porter un masque où c'est obligatoire, c'est-à-dire à l'intérieur dans un lieu public, les policiers vont être en mesure de vous donner des contraventions et en particulier dans les zones jaunes. En gros, c'est ça la nouvelle de ce matin et les gens sont même encouragés à téléphoner aux policiers pour dénoncer des situations dont ils sont témoins. Alors, ça peut peut-être être votre voisin, ça peut être un proche, là. Voyez qu'il y a le beau-frère récalcitrant qui veut rien savoir, c'est peut-être un anti-masque. Moi, j'ai été surprise, j'ai suivi la conférence de presse sur le Facebook Live de François Legault ce matin. J'étais surprise du nombre de gens qui sont officiellement anti-masque, qui le disent, puis qui continuent d'ailleurs de proférer des menaces envers le premier ministre. Je trouve ça, après tout ce qu'on a dit depuis 48 heures, je trouve ça quand même étonnant. Bref, visiblement, il y a des gens qui vivent sur une autre planète. Alors, je vais vous entendre là-dessus au cours de la prochaine heure. Dans la région de Montréal, vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. De l'extérieur de la grande région, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous l'avez suivi, cette conférence de presse, ce que vous pensez de ce qui a été annoncé ce matin. Une chose est sûre, le mot d'ordre, pas le temps de niaiser.
Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser.
Exact. On veut agir, surtout dans les bars. Entre autres, vous avez vu, il y a encore eu une soirée arrosée dans un bar de Montréal. Il y en a ici et là des espèces de petits groupes là, de gens qui se rencontrent et qui font comme si le virus n'existait pas. Pas de masse, pas de distanciation sociale. Et c'est ce qui fait dire, donc, comme je vous le disais à François Legault, on va être obligé de sévir. Je vous remets d'ailleurs en bouche les paroles du premier ministre ce matin et je vous présente ensuite deux invités pour en discuter.
Je le répète, je pense qu'on doit être solidaire, tout le monde. Donc, c'est sérieux et c'est pas vrai que quelques personnes irresponsables vont mettre à risque tout ça. On demande aux corps de police, surtout dans les zones jaunes, d'aller faire plus de tours dans les commerces, dans les transports en commun, dans les endroits où les personnes devraient porter des masques. Évidemment, on demande aussi à la population, quand ils voient quelque chose qui n'a pas de bon sens, de le dire. Appelez 911.
Appelez 911 si vous voyez quelque chose qui n'a pas de bon sens. Plus de police dans les commerces, les transports en commun, entre autres. François Doré est policier à la retraite. Bonjour, François.
Bonjour, Isabelle.
Docteur François Marquis, qui est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, est avec nous. Bonjour, François.
Bonjour, bonjour.
Je commence avec notre ex-policier. Premier ministre qui a jugé bon de nous dire ce matin lui-même, c'est sérieux. C'est pas vrai là, qu'il y en a qui vont faire fi de ce qu'on dit. Commence à être tanné là, de tous ces récalcitrants. Dans les faits, là, ce matin, on a beaucoup parlé de ça, nous, hier, la semaine dernière, François. Dans les faits, là, on voit bien que les contraventions, c'est pas ce qui fait le plus peur au monde. On connaît pas le montant. À partir de quel montant ça devient vraiment coercitif? À partir de combien, en termes d'argent, François, d'après ton expérience de policier, à partir de combien ça commence à vraiment faire mal aux gens puis les gens réfléchissent avant d'agir?
Bien, à partir de quel montant? C'est difficile à dire. Il y a d'autres mesures. On est rendu à cette étape-là d'augmenter les amendes. Je vais prendre, pour exemple, les grands excès de vitesse. Les grands excès de vitesse sur la route, à un moment donné, le gouvernement est sorti avec ça en disant « ça va coûter, bon, 1000, 1200, 1500, vous allez perdre quoi? Vous allez avoir, pardon, 15 points de démérite, votre permis va être suspendu. » Il faut qu'il y ait des conséquences. les gens qui reçoivent une amende de 500 $ ou de 800 $, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre l'argent dans ses poches et de le payer et de continuer comme si de rien n'était. Alors, oui, il y a peut-être un montant où les gens vont se mettre à réfléchir, mais c'est une étape de plus. On est rendu à l'argent, il faudrait peut-être priver les gens d'une certaine liberté pour le faire comprendre, parce que les anti-masques, ils sont moins nombreux que ceux qui le portent, mais ils parlent très fort. Alors, l'argent, c'est une chose. Est-ce qu'il y a un autre moyen qui pourrait être joint à ça? J'ai hâte d'entendre le gouvernement là-dessus.
Oui, ben, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils encouragent les gens, les autres. La responsabilité de tout le monde ici, on y fait référence, on la rappelle, puis on dit, si vous voyez quelque chose qui n'a pas de bon sens, c'est la phrase du premier ministre, ben appelez le 911. Est-ce que à partir du moment, mettons, on appelle le 911, là, il se passe quoi? La police fait quoi dans ces moments-là?
Ben, va devoir juger de l'urgence de l'appel. Un centre d'appel qui reçoit un signalement 911 pour quelqu'un qui porte pas un masque dans un commerce donné, c'est différent qu'un accident sur la route, c'est différent qu'un vol, c'est différent qu'un crime. C'est sérieux, c'est une question de santé publique, bien sûr, mais ça va être pris en considération selon l'urgence de la situation. Est-ce que c'est une personne qui est rentrée dans un commerce, là l'appel se fait au 911, est dirigé vers les policiers qui vont peut-être s'y rendre selon la capacité de le faire? Je suis pas convaincu, mais au niveau de la délation, que ça va fonctionner tant que ça, sauf peut-être pour les premiers jours, parce que ça va être nouveau. Mais est-ce que les policiers vont avoir le temps de se rendre? Le premier ministre François Legault a dit qu'il ne prévoyait pas embaucher plus de policiers. On peut le comprendre avec ce qui s'est passé à l'École nationale de police récemment, mais en mettre plus de policiers, plus de gens sur le terrain, est-ce qu'on va faire des inspections des commerces? Est-ce qu'on va faire, comme on le faisait à l'époque, la LIMBA, la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, ou on va faire des inspections systématiques de bars, de clubs? C'est tout ça qu'il faut voir, de quelle façon. Et la délation, c'est pas nécessairement la meilleure des idées, sauf que Paul Arcand le disait précédemment, il y a un transfert de responsabilité qui se fait. Parce que quand c'était fait, je pense que c'est au mois de juillet, ce sont les commerçants qui avaient la responsabilité. Maintenant, c'est la population qui a la responsabilité. Et ça peut peut-être donner un effet positif, encore une fois.
Oui, tu disais avec ce qui s'est passé à l'école de police récemment, rappelle-nous donc ce qui s'est passé à Nicolas.
Bien, on a parlé que, bon, évidemment, l'École nationale de police a ralenti ses activités, n'a pas été en mesure d'embaucher le nombre de policiers prévus. Donc, si on voulait mettre plus de policiers sur le chemin, sur la route, sur les enquêtes, dans les voitures, l'École nationale de police n'est pas en mesure de fournir les ajouts, les additions. Il faudrait peut-être en parler à Pierre-Saint-Antoine, mais c'est ce qu'on a entendu récemment. C'est que là, ils reprennent les activités graduellement, mais il y a un manque au niveau du recrutement, il y a un manque de personnel, un manque de candidats policiers. Alors ça peut être aussi problématique si on veut mettre plus de policiers sur la route.
Docteur Marquis, bon, au-delà, François Marquis, de ta compétence de médecin ici, il y a aussi, le fait que, comme citoyen, on regarde ça, puis on se dit, ouais, ces amendes-là, on voit bien que les gens, les plus récalcitrants, on finit par penser qu'il n'y a rien, là, que tout va leur glisser sur le dos, cette espèce de je m'en foutisme dont il semble être atteint. C'est pas une maladie, mais des fois, on se dit, coudonc, ça a tout l'air d'en être une. Comment contrôler ce monde-là?
Bon, le problème, c'est que dans une société, hein, comme il y a des gens qui font encore toutes sortes d'actes criminels, on sait très bien qu'on ne pourra jamais contrôler tout le monde. Mais dans le cas d'une infection, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre au minimum. Donc, l'idée là-dedans, c'est de changer dans nos récalcitrants. Il y en a qui le font peut-être par souci de vouloir être différents, qui n'ont pas une si grande conviction contre le masque, qui veulent juste montrer qu'ils sont tough, je ne sais pas. Et ces gens-là qu'on va aller convaincre d'une première ligne en disant, là, il y a des amendes. Ça va garder le monde honnête. Hein, c'est comme pour te ramener dans le droit chemin. C'est certain qu'il va rester des récalcitrants, comme il y a des gens qui polluent sans vergogne, comme il y a des gens qui conduisent en fou, comme il y a des gens qui font des actes criminels. L'idée, c'est de réduire au minimum ce nombre-là et les rendre plus facilement contrôlables à partir de là. Et d'un point de vue d'infection, je pense que ce qui va être important de contrôler en premier lieu, c'est pas nécessairement l'individu unique qui ose se présenter dans un dépanneur pour dire quelque chose sans son équipement de protection. Chaque geste compte, mais d'un point de vue microbiologique, un party de 500 personnes, ça, c'est pas mal plus inquiétant d'un point de vue microbiologique, et ça, c'est beaucoup plus à risque de faire qu'une petite éclosion devienne une très grosse éclosion, devienne l'origine de la deuxième vague. Et je pense que c'est ça que notre premier ministre dit, c'est fini les folies, c'est important, là, puis rentrer dans le rang, là.
Oui. Puis on a vu, avec ce qui s'est passé avec la mairesse de Longueuil au cours des derniers jours, le fait qu'elle avait été en contact avec beaucoup des gens, beaucoup de membres du cabinet ministériel, d'autres politiciens. On a vu que c'était tentaculaire. Il suffit d'une personne qui est testée positif à la COVID pour que là, finalement, tous les gens à qui elle s'est collée, là, même à deux mètres, ça devient du retrait préventif aussi, là. Même si les gens, on les a vus, les ministres portaient des masques, ça crée tout un... Il y a comme un ressac de tout ça, là. Donc, c'est pas à négliger non plus, là.
Non, parce que le virus est un virus d'opportunité et nos décideurs, les gens qui peuvent s'occuper aussi de zones névralgiques dans l'industrie, dans les transports publics, hein, ces gens-là se tiennent ensemble parce que ils organisent les choses ensemble. Et donc, une petite éclosion dans un endroit spécifique pourrait toucher rapidement tout le Québec. Je lance des idées comme ça, mais Hydro-Québec, s'il fallait que, pour dire quelque chose, les techniciens qui s'occupent de l'entretien du réseau fassent un gros party, puis tout d'un coup, il y en a plein qui se ramassent sur le carreau, bien, c'est tout le réseau électrique. On a des infrastructures qui repose sur un groupe de personnes ultra qualifiées et on ne peut pas se permettre que ces gens-là, dont font partie nos décideurs, soient malades. Et c'est là que le danger d'un seul individu est important. C'est que si une seule personne réussit à se glisser dans ce groupe-là, qui est peut-être restreint, mais absolument critique, tout d'un coup, une seule personne peut faire une grande différence. C'est qu'il y a cette dualité-là. Statistiquement, c'est les gros nombres, c'est les gros attroupements qui sont dangereux pour la population. Mais d'un autre côté, c'est un peu sur le principe d'un sniper, une seule personne infectée qui infecte les bonnes personnes pourrait avoir, par conséquence, un grand impact sur toute notre société. Et on a les deux à surveiller.
On le voit dans les écoles, de plus en plus, il y a des classes fermées qui se multiplient, là, des classes en isolement forcé parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés et qui avaient des symptômes de COVID. Puis là, bon, les parents, les enseignants disent on n'a pas de l'information sur ces cas-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont testé positif? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, il y a certaines bulles qui sont carrément fermées. Là. Il y a des classes fermées. C'est comme complètement en isolement. Fait que c'est sûr qu'on s'imagine aussi dans le réseau de la santé, Dr Marquis, de quelle façon ça peut vous toucher, ce genre de cas-là. Il suffit d'une personne qui est asymptomatique ou même qui le sait. Ce qu'on voit aussi, c'est des cas où on sait que les gens sont conscients de leur situation, mais passent outre.
Oui, ça, c'est quelque chose que j'ose croire que dans le système de santé, ça arriverait pas. Cela dit, j'ai un exemple en tête où je sais très bien que ça s'est passé, là. Mais.
C'est-à-dire que quelqu'un avait la COVID, le savait, mais.
Il y a quelqu'un qui s'est présenté à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui ne travaillait pas à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais qui est un travailleur de la santé, qui avait la COVID, qui avait un test positif, qui a traversé l'urgence pour aller voir un proche, en mentant à tout le monde, en disant que tout était beau, tout était correct, et en refusant de porter un masque. Ça s'est passé au moment de la première vague. Ça a créé beaucoup d'émotions. Mais cette personne-là aurait pu contaminer des nurses de l'urgence ou des soins intensifs, puis on sait qu'on en a tellement, puis que ça déborde. Hein? Et suffirait qu'une personne démarre une éclosion à l'urgence de Maisonneuve au niveau du personnel ou aux soins intensifs, et ça serait une véritable catastrophe pour l'hôpital parce qu'on n'a personne pour remplacer ces gens-là. On est déjà en pénurie. Donc, chaque personne à chaque niveau de la société peut jouer un rôle décisif. Et en acceptant de porter le masque et en acceptant de faire sa part, bien, peut-être que sans le savoir, là, vous allez sauver des centaines de personnes ou maintenir la fonctionnalité de votre hôpital régional ou de votre hôpital local. Et ça, les gens ne comprennent pas à quel point leur petit geste est si important.
Pourquoi les gens ne comprennent pas?
Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne voient pas cette importance-là. Ils ont l'impression que le système de santé ou la société, c'est quelque chose qui est distinct. Ils sont repliés sur leur individu. Ils ont peut-être juste pas, jamais même, ils sont peut-être juste jamais posé la question, hein, de le fameux effet papillon de qu'est-ce que je fais, moi, dans ma vie, qui a un impact sur la société. Les gens ont compris pour l'environnement. Les gens ont compris pour le recyclage. Maintenant, il faut juste qu'ils fassent un pas de plus pour dire, hey, la santé publique, c'est la même chose. C'est que si tu fais ton recyclage pour sauver la Terre pour tes enfants, ben, tu pourrais peut-être porter ton masque pour sauver le système de santé pour tes enfants. La seule différence, c'est que là, tu le fais pour aujourd'hui. Là. Ouais. C'est pas pour dans 5 ans ou 10 ans ou 20 ans.
Docteur Marquis, vous restez avec nous, bien sûr. François Doré, ex-policier à la retraite également. On va aller voir du côté de nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous seriez prêt à dénoncer un proche, un ami, un collègue qui ne respecte pas les règles sanitaires? Je vous rappelle que dès samedi, les policiers pourront intervenir si vous les appelez. Et c'est une responsabilité de tout le monde de dire, bon, ben garde, mon voisin, il respecte pas, là, je l'ai vu, il a invité plein de monde chez lui en fin de semaine. Évidemment, ça peut aller jusque-là, mais ce que François Legault a annoncé ce matin, en fait, c'est les bars, les commerces doivent appeler la police s'ils voient là, qu'il y a des clients qui ne respectent pas les normes. Là où les policiers vont pouvoir donner des amendes. C'est ça le bout qu'on a rajouté. Donc, c'est pour les endroits publics fermés. La difficulté, c'est d'intervenir chez le monde, comprenez? Fait que là, si tout le monde se met à appeler le 911, François Doré nous l'a dit, il n'y a pas assez de policiers. Pas comment ça peut être vraiment appliqué. Vous me direz comment vous voyez ça, 514-790-9850. Il y a Jeannot qui m'écrit, je pense que vous êtes sur une autre planète, Isabelle. Il n'y a personne qui respecte le 2 mètres dans les lieux publics, même pas notre premier ministre qui était avec le ministre Ford hier à Toronto, qui n'a pas respecté le 2 mètres. C'est vrai que cette image-là, c'est ce qu'on appelle une image forte, puis que, bon, c'est ce genre d'image qu'on n'aimerait pas voir. Mais ça a fait sourire ce matin, François Legault, qui s'est fait remettre ça sur le nez par les journalistes, mais il a dit on avait tout prévu à l'intérieur, puis il a dit que c'était bon de créer des liens. Il est allé souper, on a appris qu'il était allé souper chez le premier ministre de l'Ontario avec sa femme. Ben, bon, à l'intérieur, est-ce qu'il était à deux mètres? Voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, là, si tout le monde joue à la police, là, n'est-ce pas, François Doré? Si tout le monde se prend pour un policier, ça va pas être beau tout à l'heure. François, non, c'est ça le danger de dire on va dénoncer, hein?
Ben, exactement. Tout le monde va vouloir se faire justice ou rendre justice, dénoncer un peu tout le monde. Ça, c'est dans le début. Et ce n'est pas la solution. C'est une étape de plus. Il faut comprendre que en portant le masque, on se protège soi, protège les autres aussi.
Voilà.
On peut être asymptomatique. C'est simple. C'est simple, sauf que c'est pas tangible pour les gens. Ils ne le voient pas.
Le
voient pas parce que le virus, le microbe, quand on le voit, malheureusement, ben, il est trop tard. Les gens sont soit à l'urgence, soit intubés, soit décédés.
Ouais.
C'est là où les gens commencent à prendre ça au sérieux.
Steve est avec nous. Bonjour, Steve. Est-ce que vous dénonceriez, vous?
Je le fais déjà, Isabelle.
Ah, c'est vrai? Racontez-moi rapidement.
Ah oui, j'ai des voisins qui ont fait des parties cet été. À 3h la nuit, là, je sortais en boxeur puis je disais, garde, t'as 5 minutes pour régler ça, sinon je te fais débarquer flexi, là, ça suffit. On a toléré ça 2-3 fois durant l'été, mais là, ça s'est passé. Je te dis, Isabelle, ça sortait comme des coquerelles quand t'allumes la lumière.
Ah, c'est vrai. Puis là, la police est venue, elle est intervenue.
J'ai pas eu besoin. Juste de leur dire qu'on va faire débarquer la police si ça continue.
OK, fait que eux, les voisins, ils avaient peur de la police. Ils se sont dit, OK, on va se tenir tranquille.
Okay. Oui, exactement. L'autre affaire, Isabelle, la conférence de presse de ce matin, là, en quoi était-ce utile? Absolument.
Ben, je me suis dit un peu la même chose.
Savez-vous pourquoi? En plus, il est allé dire qu'ils vont demander aux policiers d'intervenir surtout dans les zones jaunes. C'est dans les zones vertes tout de suite qu'il faut commencer ça pour empêcher qu'on en vienne aux jaunes, aux oranges, aux rouges. J'ai pas compris ça.
Et en plus,
pourquoi ils n'ont pas attendu à demain que ce soit Mme Guilbeault qui fasse l'annonce, qui dise le montant des amendes? Là, on vient d'apprendre que ça va être entre 400 et 6 000 $. Mais ça, c'est rien de nouveau. C'est déjà dans le décret.
Ouais. Non, mais c'est ça, le coût, Steve. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un bon point. Le coût des amendes doit être précisé plus tard par Geneviève Guilbeault. Il y aura un conseil spécial des ministres parce que le coût doit être approuvé. Le coût de ces amendes-là, ça doit être approuvé par le Conseil des ministres. Donc, et c'est, je vous le rappelle, dès samedi là, que vous pourrez, si vous voyez quelqu'un là, qui ne porte pas un masque dans un endroit clos public. Donc, on pense surtout à des bars, des restaurants, des magasins, les transports en commun, a dit François Legault, les commerces. Là. Si vous voyez des gens sans masque, bien là, vous pouvez faire le 9-1. Est-ce que la police va venir tout de suite? Est-ce qu'ils vont mettre des amendes? Bien, en tout cas, là, ils auront les moyens de le faire parce qu'il y aura eu un décret du gouvernement. Mais c'est sûr, c'est pas simple. Roger, bonjour. Vous voyez ça comment, vous?
Bien, moi, j'espère que les amendes vont être très, très, très salées puis qu'ils vont être progressifs aussi. Mm-hmm. La deuxième amende, etc., pareil comme, disons, les points d'inaptitude avec... la vitesse.
Ouais. Allez-vous appeler, vous, si jamais vous voyez quelqu'un là, qui a défaut de
porter... Sûr, certain, ça, c'est sûr. Puis j'espère que tout le monde va appeler aussi si on veut s'en débarrasser du virus. Hein.
Uh-huh. Merci.
Et comme le monsieur a dit aussi, là, pas juste les territoires jaunes, verts avec, c'est important.
Oui, ça, c'est un bon point. Demande,
uh-huh. La demande devrait être aux deux. Les gens, ils s'en foutent. Il faut que ce soit aussi les commerces. À moins que si le commerce a fait le 9-1-1, bien là, il est protégé. Ça va être juste le client qui a fait à sa tête, pas de masque.
Ouais. On a. Merci, Roger. Alain, est-ce que vous dénonceriez, vous, un proche, un ami, un collègue qui ne respecte pas les règles sanitaires?
Bien, en fait, je l'ai déjà fait. Le problème avec ça, c'est que si on engorge... Est-ce que le docteur est encore...
Oui, docteur Marquis est toujours avec nous, effectivement.
OK. En passant, félicitations pour votre émission. Puis je voudrais dire, docteur Marquis, à qui je suis allé porter des masques dans la première, je sais pas si tu te souviens, dans la première semaine.
Oui.
Vous nous aviez appelé, Alain, je m'en souviens, moi, oui.
Mm-hmm. Je suis allé porter une boîte de masques là-bas.
À Maisonneuve-Rosemont.
Et N95, j'en ai encore. Mais j'attends la deuxième vague. J'attends qu'ils soient en panique un peu. C'est ça pour en revenir. Si je regarde là, les statistiques et si je regarde... au niveau de comment on gère la crise, je pense que, sérieusement, j'aurais mis tout le monde en isolement maintenant. Pourquoi? Parce que on l'aurait évité, la vague. Je suis certain de ça. Là, présentement, c'est sûr qu'on s'en va dedans, parce qu'on n'est pas préventif. Si on regarde Cuba, qui a 11 millions d'habitants, je crois qu'au total, je pense qu'ils n'ont même pas atteint le 4000 cas encore. Puis pourtant, eux autres ont été confinés. Et même pourtant, la semaine dernière, ils confinent à partir de, je pense, c'est mardi. Ils ont confiné.
Donc, vous êtes pour un reconfinement. Vous êtes pour un reconfinement, Alain? C'est ça?
Moi, c'est un reconfinement, mais maintenant, pas dans 3 mois, quand ça va être déjà starté. Là.
Ouais. Mais et des zones jaunes, dans les zones jaunes? Reconfiner les zones jaunes au complet?
Ah, je confinais le Québec au complet. Comme
oh, my God, Alain.
Comme le 13 mars.
Ouais. Ah oui. Mais là, en même temps, merci beaucoup, Alain. On va aller à la pause, mais je voulais donner la parole aussi au docteur François Marquis. Donc après, il y a beaucoup de monde qui veulent intervenir, mais sur la question du reconfinement total, je pense que c'est clair que le gouvernement ne veut pas revenir là. Et il y a quand même, je veux rassurer ceux que ça inquiéterait, là, le commentaire d'Alain, on n'est pas là du tout. Et il y a quand même, je veux dire, là, il y a quand même beaucoup de zones vertes. Il y a 4 poches plus jaunes, des zones jaunes, mais c'est l'Outaouais, Québec, l'Estrie, Laval. Le reste, c'est vert et le reste, on contrôle. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'on perde le contrôle. C'est ça qu'on veut éviter. On n'est pas dans le reconfinement total, heureusement. On va à la pause là-dessus. Bon, on essaye de voir là, si les gens vont dénoncer un proche, un ami, un collègue qui ne respecte pas les règles sanitaires. On parle ici, bien sûr, d'endroits comme les bars, les commerces, les magasins. Là, vous pourrez appeler la police à partir de samedi. Faites le 911. Les policiers devraient venir et vont avoir les moyens de donner des amendes plus salées. C'est ça le bout qu'on rajoute, dit François Legault. Le bout qu'on rajoute, c'est des amendes plus salées puis des policiers qui vont plus intervenir. Notre invité, François Doré, disait qu'il n'y en avait pas plus de policiers qui allaient être dépêchés. Puis ils ne seront pas plus nombreux pour intervenir. Comment ça va se passer? Pascal, vous ne semblez pas être en faveur de ce genre de mesures.
Non, pas du tout. Mais pour commencer, Isabelle, je suis pour le port du masque. Ça,
okay.
Ça c'est clair.
Mm-hmm.
Mais par contre, moi, ce qui me répugne, c'est que le gouvernement, présentement, essaie de faire de nous des petites marionnettes pour qu'on devienne un peuple de dénonciation sur tout ce qui se passe. Pour avoir un œil. Il essaie de se mettre des yeux un peu partout dans la province. Hey, un tel fait ci, un tel fait ça. ça n'a plus de sens. Là. On est comme, moi, je veux suivre les règles, mais à un moment donné, il faut que ça cesse d'être une marionnette.
Fait que vous, vous appelleriez pas le 911 pour dénoncer votre prochain. Là.
Non, je ferais preuve plus de civilisation, en sens que j'irais voir la personne, je dirais, écoute, regarde, on s'entend, on est dans une crise présentement, s'il vous plaît, ça serait-tu possible? T'sais, si on aurait une approche comme ça, des fois, c'est beaucoup plus facile, la personne pourrait peut-être plus réaliser, ah ben, Colin, oui, c'est vrai, la personne a raison, je vais faire un effort, mais si on est toujours dans la négativité, je dis, on va avoir une amende, ben, les gens vont être tout le temps confrontés à dire, ben moi, je vais...
Mais Pascal, non. Si vous avez déjà croisé un vrai, ceux qu'on appelle les co-COVID en ce moment, ou les COVIDio, ou les récalcitrants boqués, il y a beaucoup de noms finalement, vous allez voir qu'ils vont pas vous écouter, ils vont pas, votre civisme là, que vous essayez de négocier, ben il va vous dire, va donc, là. En avez-vous déjà croisé là, des va donc? Là? Hein?
Non, j'en ai pas croisé.
Non, hein, boy, vous êtes chanceux. Il y en a.
Parce qu'à 99% du temps, les gens le mettent, le masque.
Ouais.
Là, on s'entend que c'est dans des bars, dans des lieux où il faut consommer de l'alcool, puisqu'on ne peut pas vraiment porter un masque ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, ben, trouver une autre solution, de dire, ben, les bars, c'est plat, mais c'est fermé.
Ah, on les referme. OK, ben ça, c'est une idée. Merci beaucoup, Pascal. Je me tourne vers François Doré. François, avant de te laisser aller, je vais t'entendre là-dessus sur... l'intervention réelle sur le terrain dès samedi. Oui. Tu nous disais tout à l'heure, il n'y aura pas plus de policiers. Donc, tu as comme un doute sur le fait que ça puisse vraiment être mis en pratique, ce que le gouvernement nous annonce ce matin. Tu disais les amendes. C'est pas clair que ça influence vraiment les gens. Est-ce qu'on va être obligé éventuellement de refermer les bars? Ça sera toujours une possibilité éventuellement, mais ce que nous dit Pascal, là, c'est qu'il y avait d'autres façons d'intervenir que ça. Toi, tu dis quoi là-dessus en réponse à Pascal?
Ben, c'est sûr que les cas extrêmes vont peut-être réagir. Oui, il y a des amendes qui vont être données, des constats d'infraction, mais j'écoutais depuis le début de l'émission, puis amusons-nous deux instants, quelqu'un qui reçoit un constat d'infraction et qui est inscrit sur une liste où la prochaine fois il va devoir se présenter à l'urgence d'un hôpital ou pour recevoir des soins de santé, qui va sortir sa carte d'assurance maladie, il y a une amende qui est imposée parce que il fait partie d'un groupe qui n'a pas porté le masque. Est-ce que c'est une solution? Je ne le sais pas. Est-ce que quelqu'un qui, je sais pas moi, qui voit son compte d'hydro augmenter pour tant de mois parce qu'il a fait partie d'un groupe ou de personnes qui ne portent pas de masque, est-ce que ça pourrait être une idée? Ça touche.
La délation comme telle, le fait de dire, appelez-donc le 911, c'est la responsabilité de tout le monde. Le fait de faire un transfert de responsabilité, dire, ben, c'est pas juste aux gens qui sont propriétaires de magasins ou de bars d'appeler la police, c'est à tout le monde. Est-ce que la délation marche? Moi, je suis pas en désaccord avec Pascal quand il dit, moi, j'appellerai pas. Moi, sincèrement, je pense pas que j'appelle pour dénoncer mon prochain, sincèrement. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Là. Je suis pas un stool. Tu sais, moi, les stools, j'aime pas trop ça, là.
Non, moi non plus, la délation, OK, dans d'autres cas, on s'attache à un ancien politique, mais s'il y a un groupe de personnes qui ne portent pas de masque, qui ne font pas attention, qui ne respectent pas les mesures de sécurité, ça me dérangerait pas mal moins que de dire, bon, ben, monsieur ou madame une telle, elle rentrait à l'épicerie, ne portait pas son masque. Ça, non, on s'entend là-dessus. Là.
Ouais. Les groupes... Mais tu sais, il y a des limites aux interventions. Il y a 3000 personnes à Québec, qui est devenue d'ailleurs zone jaune, qui ont manifesté contre le masque. Il n'y a pas eu d'intervention policière, là. Il y a eu 1500 personnes qui étaient en bateau il n'y a pas longtemps, puis qui twerkaient solide. La police était sur la rive, les regardait faire. Il n'y a pas eu d'intervention policière. Est-ce que dès samedi, ce même genre de situation amènerait de l'intervention policière, François?
Je pense qu'ils n'auront pas le choix d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est globalement des amendes à tout le monde? Mais au moins, au lieu de les regarder aller, là, intervenir, faire quelque chose. C'est la responsabilité de tout le monde, de toutes les personnes, qu'ils soient policiers ou plaisanciers. Mm. C'est la responsabilité de tous. Puis on est là pour un bon bout de temps.
Voilà. Merci beaucoup, François, de toutes ces informations. On va poursuivre, bien sûr, nous, avec ce sujet-là, mais je rajoute un élément. À la conférence de presse de ce matin, il y a eu, entre autres, Christian Dubé qui s'est fait demander, bon, qui doit et ne doit pas se faire tester? Puis, il nous encourageait d'ailleurs à aller nous faire tester, on va en parler. Il y a Nima Machouf, épidémiologiste, qui se rajoute à notre discussion. Elle travaille à la clinique du Quartier Latin. Bonjour, Mme Machouf.
Bonjour, Mme Maréchal.
Docteur Marquis est toujours avec nous, bien sûr, de Maisonneuve-Rosemont. À tous les deux, là, je vais vous faire entendre ce que disait d'ailleurs Christian Dubé, parce que c'est je trouve que c'est intéressant, cette clip-là. Je trouvais important de la ressortir puis d'en discuter avec les auditeurs.
Moi, je voudrais que tout le monde qui veut se faire dépister aille se faire dépister. Parce que si les gens ont le moindrement une question, un doute, je pense qu'on doit donner la chance aux gens de se faire tester. Et c'est pour ça que je discute avec mon équipe en ce moment, avec Mme Savoie, c'est comment on peut recentrer nos choses avec les rendez-vous et les sans-rendez-vous. Ça, il faut retrouver cet équilibre-là dans les prochains jours.
Bon, c'est important ce qu'il vient de dire, Dr Machouf, Dr Marquis. Bon, est-ce que c'est possible de dire tout le monde qui devrait pouvoir tout le monde qui veut, qui a un doute, il devrait pouvoir se faire tester? Est-ce nécessaire? Est-ce souhaitable? Et est-ce possible? Ça fait trois questions dans une, mais vous comprenez le concept. Madame Machouf d'abord, puis François Marquis ensuite.
Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cet énoncé. Sachant qu'on fait face à une maladie où à peu près la moitié des gens n'ont pas de symptômes, donc ne savent pas qu'ils sont infectés et ne savent pas qu'ils sont en train de transmettre, il est important de tester le plus possible les gens. Alors, quand ils disent que tous ceux qui veulent se faire tester, on décide pas, ah, ben, moi j'ai le goût de me faire tester aujourd'hui, ça va être le fun. Non. Mm-hmm. Premièrement, le test, il est déjà désagréable. Donc, on le fait si on pense qu'on a été à risque d'avoir contracté l'infection. Alors, moi, je pense qu'il faut que les tests, surtout maintenant, qu'on s'en va vers l'intérieur, c'est-à-dire, il va faire froid, on va avoir moins d'activité à l'extérieur, on va rentrer à l'intérieur, il va avoir concentration de personnes à l'intérieur, l'espace est fermé, il n'y a pas trop de ventilation, on ne peut plus ouvrir les fenêtres. Donc, vous voyez là, la concentration de possibles aérosols, postillons, tout ça là, commence à être grand. Donc, on va aller vers une augmentation de cas. Les écoles sont ouvertes, les lieux de travail sont ouverts, donc plus de concentration de population. Donc, c'est sûr qu'on va aller vers une augmentation de cas. Donc, les personnes qui ont été en contact avec des cas potentiels ou une éclosion potentielle doivent pouvoir se faire tester, même s'ils n'ont pas de symptômes.
Mm-hmm. Docteur Marquis?
Ben effectivement, je pense que ça a bien résumé là, la problématique. La chose qui est importante, ce que je mettrais encore plus là-dedans, c'est si vous avez un appel, si vous avez un contact, s'il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, tu te rappelles, un tel qu'on a vu il y a trois jours, finalement, il est COVID, hein? » Ben vous avez un devoir civique d'aller vous faire tester. Ensuite, la plupart des gens, comme le test n'étant pas la chose la plus agréable au monde, je suis assez d'accord qu'il y a très peu de gens qui se réveillent un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, c'est une belle journée, je vais aller me faire tester. Mm-hmm. » Quand on se pose la question, c'est un peu comme une infection transmissible sexuellement. Quand tu commences à te poser la question, c'est que tu as des facteurs de risque. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui se réveille un matin en disant « Tiens, je pense que j'ai attrapé telle maladie. » Donc, dans le cas de la COVID, quand on commence à se questionner, est-ce que ça serait pertinent d'aller chercher une réponse, d'aller passer un test, c'est probablement parce qu'à quelque part, on sait qu'on a peut-être été en contact avec quelqu'un, peu importe la raison. Et donc, je pense que c'est de là que ça devient la raison d'y aller. Mais si vous avez été contacté parce que quelqu'un dans votre entourage qui est positif ou qui est allé dans un de ces gros parties-là, là, c'est un devoir civique. On doit y aller parce qu'il y a un risque qu'on soit symptomatique et qu'on devienne un contagieux qui s'ignore.
Ouais. Mais en même temps, c'est pas évident parce que là, ce qu'on nous a dit ce matin, là, c'est que si vous voyez un pas de masque, appelez le 911 et dénoncez-le à la police. Si vous pensez que vous avez peut-être des symptômes de COVID, appelez le 811. On va être une méchante gang sur le téléphone, là.
Moi, je l'entends pas comme ça. Madame Maréchal, moi, je l'entends pas comme ça. C'est pas appeler le 911 dès que vous voyez un pas de masque. C'est qu'étant donné que maintenant, ils vont même imposer des amendes aux individus, ça nous donne un pouvoir supplémentaire à nous, citoyens, d'essayer de convaincre celui qui ne porte pas de masque que c'est important. Puis tu pourrais avoir une amende même si tu le portes pas. Donc, la loi l'exige. Et moi, je ferais exactement comme Pascal qui expliquait tout à l'heure, de convaincre la personne. Mais le fait de savoir que le gouvernement va donner des amendes si la personne ne porte pas de masque, ça me donne un pouvoir de négociation ou un pouvoir de persuasion sur la personne qui ne le porte pas. Et je te demande de le porter. Parce que, de toute façon, si je veux, je pourrais appeler le 911. Je ne vais pas le faire. Parce que c'est le but recherché, je pense, quand M. Legault dit on va sévir, c'est pas de donner des amendes, c'est de convaincre les gens de porter le masque.
Oui, mais en même temps, Nima Machouf, est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire, de voir quelqu'un puis de dire à la personne, vous n'avez pas de masque, vous devriez porter le masque, on est dans un centre commercial. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce commentaire-là. Imaginez ce que ça peut faire. Ça peut créer des altercations, sincèrement. Oui. Moi, je suis pas sûre que ça soit bien normal de demander aux gens, c'est comme de dire aux gens de jouer un peu à la police, là, sincèrement. Docteur Marquis, peut-être là-dessus aussi?
Oui, bien, moi, je ramène ça aussi à quelque chose qui est rendu aujourd'hui impensable. Mais rappelez-vous, l'alcool au volant. Moi, j'étais assez vieux pour avoir entendu des gens dire « t'en veux-tu un pour la route? » OK? Puis qui était sérieux. Ça n'existe plus aujourd'hui. Quand quelqu'un est en état d'ébriété puis qu'il veut s'approcher de ses clés, il y a 8 personnes qui vont y sauter dessus puis qui vont le prendre en charge. Il y a une prise de conscience sociale profonde qui a été faite sur l'alcool au volant, et tant mieux. Et là, je
crois
que...
Ça a pris 20 ans, 25 ans, puis encore des...
Oui, et il y en aura toujours des récalcitrants. Mm. Et on le sait, ça. Mais je pense que l'idée là-dedans, c'est de... toutes les amendes, toutes ces choses-là, c'est un peu aussi une justification du gouvernement de dire, écoutez, on est rendu sérieux à ce point-là, et je pense que c'est aussi pour aider la population à faire une prise de conscience, d'une part, qui peut avoir des conséquences, et d'autre part, pour le citoyen, pour le citoyen ordinaire, c'est pas tant que d'appeler le 911 puis de se partir un racket de délation, mais plutôt de dire, écoute, c'est rendu important à ce point-là, je vais peut-être essayer de convaincre mon beau-frère, ma sœur, mon ami, mon cousin, et moi-même de suivre les règles. Je pense que plutôt que d'encourager massivement la délation, ce qu'on veut, c'est souligner à gros traits qu'on est rendu à une nouvelle étape de notre prise de conscience collective.
On s'arrête ici, on revient tout de suite après. On est en train de chercher sur Internet tout ce qui se trouve d'interpellations qu'on risque d'entendre beaucoup dans les prochains jours si vous essayez vous-même de raisonner votre prochain. Nous en avons trouvé, n'est-ce pas, Max? Est-ce qu'on en a pas loin?
Vous vraiment chier!
On s'amuse parce qu'il faut bien en rire quand même. Je vous représente mes invités. Dr François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, est avec nous. Nima Machouf est épidémiologiste. Elle travaille à la clinique du quartier latin. On a Mathieu qui nous appelle. Bonjour Mathieu.
Oui, salut. Écoute, je suis un petit peu abasourdi. Les oreilles me saignent. Là. J'entends des gens depuis tantôt, les trois premiers là, plus spécifiquement qui ont appelé.
Oui.
Puis, dont le dernier, je pense à Alain, là, de reconfiner le Québec, puis ça presse, là. Tu sais, j'ai 3 enfants de 5, 7 et 8 ans.
Mm-hmm.
Puis j'essaie de les élever, de ne pas être des rapporteurs, d'être des personnes droites. Puis, en bon français, de ne pas commencer à saouler tout le monde, les élèves pour rien, tu sais. J'entends des commentaires comme ça. Puis je me questionne vraiment sur la pertinence. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est malade dans la société en ce moment, puis de commencer à systématiquement rapporter, faire de la délation, puis de stouler en bon français tout le monde.
Mm.
C'est-tu vraiment la bonne approche? C'est-tu vraiment ça qu'on veut devenir? Puis commencer à reconfiner le Québec one shot en bon français, là. C'est parce qu'aller dire ça aux restaurateurs, aller dire ça aux gens qui ont des commerces, qui ont des enfants à nourrir eux aussi, puis qui ont des employés pour lesquels ils sont responsables, puis une économie globale pour le Québec, puis le voir mondialement, là, mais je vais un peu loin, mais c'est quoi l'attitude qu'on veut adopter? C'est quoi la psychose de ces gens-là? Je la comprends pas, puis je minimise pas le masque, là. Je suis pas un fervent amateur de ça, mais je respecte la loi, puis on rentre dans les rangs, mais tu sais, il y a plein de choses qui peuvent expliquer le non-port du masque. Est-ce que cette personne-là combat un petit rhume bénin, manque d'oxygénation en arrière de son masque, elle a bu des lunettes, peu importe la raison, c'est tout.
Mais à partir, voilà. Et vous avez raison de dire, moi, je suis assez d'accord avec vous. La pertinence de la délation, vous l'avez très bien exprimé. Ça, c'est un point, je pense, qui est important ici. C'est pas rien de dire à tout le monde, appelez le 911, appelez la police. Puis après, bon, on est. Le masque, personne qui aime ça. Personne n'aime ça. Mes invités là-dessus, il nous reste quelques minutes. François Marquis et Nima Machaud, je vais vous entendre là-dessus. La pertinence de la délation, on en a parlé un peu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de dérangeant là-dedans, Madame Machaud.
Oui, mais moi, j'ai trouvé l'analogie de Dr. Marty tellement bonne avec l'alcool au volant. Mm-hmm. C'est des campagnes de sensibilisation et d'éducation, mais agressives que ça nous prend. Et l'idée, encore une fois, je me répète, c'est pas de dénoncer quelqu'un. C'est d'utiliser ce pouvoir supplémentaire qu'on nous a accordé
ouais.
pour essayer de convaincre les gens de le porter parce que c'est important pour toute la société. Parce que justement, on veut pas retourner au confinement. On veut que les écoles soient fonctionnelles.
Voilà.
Puissent continuer.
J'ai une bonne question de Josée pour vous, directement en lien avec ce que vous venez de dire, puisque vous parlez de contagion. Josée dit, j'aimerais savoir vraiment, là, quels sont les risques de contagion si tout le monde portait vraiment le masque, là? Est-ce qu'il resterait encore un risque de contagion? Il serait beaucoup diminué, forcément, Madame Machaud.
Il serait diminué énormément. Le masque est une mesure parmi d'autres qui permet à la personne qui est infectée de garder ses gouttelettes, ses aérosols, de garder ses virus avec elle. Donc, ne pas les répandre dans l'air. Si la personne qui est infectée porte le masque, déjà, on a une charge de virus ambiante qui est beaucoup diminué. Mm-hmm. Quand il n'y a pas de virus dans l'air, ben, l'autre personne ne peut pas s'infecter. Donc, si la personne malade le porte, elle protège les autres. Si les autres portent le masque, se protège elle-même. Donc, le risque est vraiment diminué et surtout dans des milieux clos. À l'extérieur, c'est pas si grave parce que le virus, même s'il est présent, il se dilue dans l'air ambiant. Mais à l'intérieur, quand on est nombreux à respirer, à parler, à chanter, à crier, à tousser, ben là, ça fait beaucoup de choses dans l'air.
Mais les gens disent, mais c'est pas mortel.
Ça dépend pour qui.
Voilà, c'est ça.
Oui. C'est ça. Je parlais avec une amie qui est à l'hôpital et elle dit à l'hôpital, maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui sont hospitalisées pour la COVID, mais les cas qu'elle rencontre, contrairement à ce qu'il y avait au mois d'avril ou au mois de mai, c'est pas des personnes nécessairement âgées, c'est des parents dans la cinquantaine, dans la quarantaine qui ont attrapé la COVID par leurs ados.
Ouais, voilà, et ça m'amène donc merci Nima Machaud, merci beaucoup épidémiologiste. Ça m'amène donc à conclure avec le docteur Marquis, justement à l'hôpital. Madame Machaud vient nous le dire. Est-ce que vous confirmez ça, effectivement, François, que c'est d'autres gens là, ce n'est plus que des personnes aînées qui arrivent et qui doivent avoir vos soins. On va le voir d'ailleurs ce soir 20h là, de garde 24/7 à Télé-Québec. Docteur Marquis, on va vous voir en action en pleine période de confinement COVID. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus ce que vous vivez, mais peut-être ça va donner. Peut-être tout le monde devrait regarder ça ce soir à 20h puis voir à quel point ça a été grave ce que vous avez dû à gérer au quotidien, vous.
Oui, définitivement. Particulièrement tous ceux qui nient encore qu'il y a eu une crise puis que tout ça, c'est de la désinformation. Nous, on a filmé à l'intérieur, puis je peux vous jurer que je ne fais pas partie d'une conspiration mondiale. Ce qu'on a filmé...
Hey, vous n'êtes pas payé par Bill Gates, François, juste pour
dire. Non, Dieu m'en garde. Mais sérieusement, c'est ultra bien fait et ça va vraiment donner les deux premiers épisodes de 24/7 donnent exactement le pouls de ce qu'on a vécu et de ce qu'on veut éviter. Je pense qu'effectivement, les gens qui sont malades présentement ont changé. Et à la question de la mortalité, rappelez-vous qu'il y a la mortalité directe et la mortalité indirecte. La mortalité indirecte, c'est ceux qui sont rentrés à l'hôpital pour autre chose qu'une COVID et qui s'en attrapent un. Et l'autre chose, c'est ceux qui n'auront pas accès au système de santé parce que le système de santé est engorgé par la COVID. Donc, peut-être que vous n'avez jamais attrapé la COVID et vous allez mourir à cause de la COVID.
Merci beaucoup, Dr. Marquis. Ce soir, 20h à Télé-Québec.